Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. L'Algérie entre en grève générale et Abdelaziz Bouteflika serait sur le chemin du retour au pays. Commentaire de l'économiste Smaïl Lalmas et parole d'un Algérien vivant en France en solidarité avec le front du refus. À un cinquième mandat du président sortant. Également au sommaire, un autre élan de solidarité, celui de médecins français au chevet de collègues soudanais, victimes de la répression du régime d'Omar el-Béchir. Les grands enseignements de l'enquête Via Voice pour les Assises internationales du journalisme de Tours. Puis à la fin de cette édition, la face cachée du globe avec un développement sur des remous politiques en Thaïlande suite à la dissolution de l'un des principaux partis d'opposition. Grève générale à compter de ce dimanche et pour 5 jours jusqu'à l'examen par le Conseil constitutionnel algérien des candidatures à la présidentielle et le président sortant devrait être en son palais à l'annonce des avis rendus par la haute juridiction. L'avion présidentiel va en effet ramener au pays Abdelaziz Bouteflika qui aura subi des examens médicaux à Genève à compter du 24 février. Cette grève générale qui prend la suite des manifestations historiques d'avant-hier et de ces 2 dernières semaines vient acter les fissures au sein des structures qui faisaient partie de l'échafaudage du régime. Mayouen Bordron a sollicité Smaïl Lalmas, économiste algérien.
On voit qu'il y a un retournement de situation. Le patronat qui était censé être proche du président et de la présidente de la République retourne sa veste et a compris qu'il ne pouvait pas se détacher du peuple et de l'action populaire. Bon, quand on parle de patronat, on parle de la direction, surtout du FCE par exemple. Le FCE, c'est le forum des chefs d'entreprise, c'est l'équivalent du MEDEF en France. Donc ce sont quelques personnes réputées être proches du président et réputées appliquer toutes les décisions de la présidence. Mais là, aujourd'hui, il y a eu des démissions, il y a eu un revirement de situation. Donc les forces patronales sont avec l'action populaire, les syndicats aussi, même l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, c'est le syndicat censé être le plus important en Algérie, réputé pour être proche du pouvoir, notamment la direction de ces deux entités sont désignées par le pouvoir et sont proches du pouvoir. Donc l'UGTA a été dénoncée et la base de l'UGTA a complètement renié la direction et a rejoint le mouvement populaire. Donc finalement, il y a tout le monde qui a rejoint le mouvement populaire. Donc le pouvoir n'a pratiquement plus personne. Tout le monde s'accorde à dire que ces appels sont venus au bon moment et répondent aux besoins du peuple. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut y aller dans le même sens et unir nos forces pour dire non à ce pouvoir.
Et les Algériens vivant en France, eux aussi se mobilisent et affichent leur soutien aux familles, au pays. Algira Mohamed a rencontré ce matin dans les rues d'Amiens Mourad.
Pour moi, c'est une deuxième révolution. Hein, quand on voit 10 millions de personnes sortir dans la rue, hein, donc ce pouvoir, l'air Bouteflika, c'est fini. C'est le peuple, c'est la rue qui dit dégage. On ne peut pas aller contre la rue. La rue a dit non. Maintenant, comment assurer la transition?
Vous n'avez pas peur de l'avenir après Bouteflika s'il part?
Vous savez, quel que soit le prix à payer, je crois que ce peuple, il le payera, mais la lutte, elle continue.
Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de suivre ça d'ici, d'Amiens, alors que votre famille, elle est là-bas? Vous avez un peu peur pour eux?
Écoutez, là où il y a un peuple en lutte, il faut le soutenir. Parce que on en a marre de ce régime autoritaire, on en a marre des assassinats politiques, on en a marre de la répression. Hein, il n'y a pas mieux que la solidarité. En étant ici aussi, je soutiens ces millions d'Algériens qui disent non au cinquième mandat.
Le témoignage de Mourad recueilli ce matin dans les rues d'Amiens. Un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Nairobi s'est écrasé en début de matinée, peu après son décollage d'Addis Abeba. Avec à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage, aucun survivant. Le Soudan, amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, est confronté à une inflation de près de 70% par an et fait face à un grave déficit en devises étrangères. Les subventions allouées à la fabrication du pain. Elles aussi ont fondu et les autorités ont triplé le prix de cet aliment de base et de première nécessité, d'où les révoltes et les répressions qui se multiplient depuis le mois de décembre. Parmi les cibles du pouvoir, incarné par le président Omar el-Béchir, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les médecins. Une 60aine de leurs confrères français publient aujourd'hui une tribune dans le JDD, dont Jacques Berès, cofondateur de Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Il répond aux questions de Manon Clavery.
On a très peu d'informations, hein. C'est un grand exemple d'opacité. Il y a l'Algérie et le Soudan depuis des dizaines d'années. Mais là, c'est la première fois, me semble-t-il, où la population essaye de prendre son destin en main et de se libérer du carcan et de la dictature qui pèse sur le peuple depuis des décennies. Et il y a des manifestations, il y a une répression sanglante, l'armée tire sur les gens, il n'y a pas des centaines de morts, mais il y a surtout le fait que les médecins sont violemment impliqués là-dedans. Soigner des gens dans les hôpitaux, ça devient très dangereux. Il y en a qui ont disparu, on n'a toujours pas de nouvelles, il y en a qui ont été arrêtés, il y en a un qui a été exécuté. On ne peut pas trop laisser passer ça quand même, non ? On en parle quand même très peu du Soudan ce moment, alors que c'est une situation complètement pourrie, d'une dictature agonisante, enfin on espère au moins, et qui se maintient avec des assassinats et une attaque ciblée contre le corps soignant. Béchir, il est condamné par la Cour pénale internationale et il s'en fout complètement, mais ce régime dictatorial qui s'est rendu quand même coupable au Darfour de crimes de guerre et probablement aussi de crimes contre l'humanité échappe pour l'instant aux sanctions internationales. Et si la population se manifeste au point de faire des grandes émeutes et que on peut pas soigner les blessés dans les hôpitaux parce que ça devient très dangereux pour le corps soignant, faut en parler.
Jacques Berès, chirurgien de guerre, cofondateur de Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Unis dans le même esprit, c'est l'un des slogans préférés de Pyongyang. Rappelons qu'en ce jour d'exercice démocratique en Corée du Nord, les élections législatives, les électeurs doivent, je cite, prouver avec leur bulletin leur loyauté au parti et au leader, leur soutien absolu au gouvernement et leur volonté de partager jusqu'au dernier leur destin avec le socialisme. Fin de citation. Séoul, Frédéric Ojardias.
Pas besoin de sondage en Corée du Nord. Lors du précédent scrutin, il y a 5 ans, le pays affichait fièrement un taux de participation de 99,97% et chaque représentant de l'Assemblée populaire suprême avait reçu 100% des suffrages. Cette Assemblée a un pouvoir très réduit, elle se contente de valider les décisions prises par le parti et le dirigeant suprême Kim Jong-un. Les Nord-Coréens ne peuvent que voter pour ou contre l'unique candidat qu'il aurait présenté et peu se risque à se montrer déloyal envers le régime. Ces élections sont ainsi un outil de contrôle idéologique et social qui permet aux autorités de vérifier la loyauté de chacun. La propagande en profite pour marteler son message d'unité et pour rappeler les bienfaits supposés d'un système présenté comme égalitaire et démocratique. Pour les observateurs extérieurs, ce scrutin permet de savoir qui sont parmi l'élite les figures montantes ou les apparatchiks en disgrâce. C'est un aperçu certes limité sur les jeux de pouvoir à Pyongyang.
En France, délogés hier soir par les forces de l'ordre, les surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe ont repris ce matin leur blocage de l'établissement. 5 jours après l'agression au couteau de 2 d'entre eux par un détenu radicalisé, ils seront rejoints, ces grévistes, dans la journée par des collègues de Lille, Beauvais et Paris. Le cardinal Barbarin n'a pas célébré la messe ce matin à Lyon. Aucune référence n'a été faite à sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles par un prêtre de son diocèse, ni à la de sa démission. Venons-en cette fois aux grands enseignements de l'enquête Via Voice pour les Assises internationales du journalisme qui s'ouvre mercredi prochain à Tours. Enquête qui est à déterminer les attentes des Français envers les journalistes, les médias et l'information. Béatrice Duguay.
Si les journalistes sont utiles, voire indispensables aux yeux des personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est par besoin croissant de vérification face aux rumeurs, aux fausses informations, à la propagande qui désinforme. En revanche, elles ont du mal, 53% des sondés, à considérer qu'une information de qualité, ça se paie, que ce travail-là n'est pas gratuit. En revanche aussi, les 18-34 ans sont de plus en plus nombreux à considérer qu'ils peuvent faire confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. Au rayon des critiques formulées dans cette étude, les médias sont accusés de privilégier les informations sensationnelles ou la violence, de tous raconter la même chose et de ne pas donner la parole de manière équitable. Leur indépendance est mise à mal, contenu influencé par les actionnaires ou par les personnalités politiques pour plus des 2/3 des sondés. Mais ces majorités cachent les contradictions en fait. Exemple avec le cas particulier des gilets jaunes, mal couvert pour 53% des personnes interrogées, mais parce que les médias ont soit donné trop la parole aux gilets jaunes, soit pas assez. Vision de société et opinions politiques divergentes qui influencent le rapport à la presse.
Et c'est enquête a été effectuée en partenariat avec Radio France, France Média Monde, le journal du dimanche et France Télévisions. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Le combat contre l'organisation État islamique est loin d'être terminé en Syrie. La situation actuelle en Afghanistan ne permet pas de retrait des forces de la coalition. Joseph Votel a exposé jeudi au Congrès ses doutes, voire ses critiques sur les décisions unilatérales voulues par Donald Trump. Jim Mattis, l'ancien ministre de la Défense, l'avait fait avant lui. Joseph Votel, qui est le chef des forces armées américaines au Moyen-Orient, prendra sa retraite en été. Une vague de cyberattaques a touché des dizaines de militants des droits de l'homme, de membres d'ONG et de journalistes égyptiens depuis le début de l'année à travers une technique dite de hameçonnage. L'organisation Amnesty International alerte sur des attaques numériques qui les mettent en danger et qui font partie d'une campagne destinée à les intimider et à faire cesser toute critique du gouvernement. La toile reste aux yeux des Égyptiens le seul espace de liberté. Or, plus de 500 sites égyptiens sont bloqués. La mairie de Gdansk, en Pologne, a décidé jeudi d'enlever d'une place publique la statue du père Henryk Jankowski, malgré les protestations de syndicalistes et de conservateurs. Mort en 2010, l'ancien aumônier et grande figure du syndicat Solidarité était soupçonné d'actes pédophiles. Des enquêtes sur son comportement à l'égard de jeunes filles et garçons avaient été ouvertes puis classées en 2004. Sa statue avait déjà été renversée il y a une quinzaine de jours au moment où le pape François ouvrait au Vatican une réunion inédite sur la lutte contre la pédophilie. La junte thaïlandaise a dissous jeudi le Thai Laksachart. Cet important parti d'opposition a osé intégrer sur ses listes la propre sœur du roi. C'était vu comme un crime de lèse-majesté. Elle a dû vite renoncer sous la pression du palais. Bernard Formoso, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, a suivi cet épisode inédit et l'invalidation jeudi par la Cour constitutionnelle du parti pro-Shinawatra.
À vrai dire, l'argument qui est avancé par la Cour constitutionnelle, c'est de dire, voilà, normalement, la famille royale ne peut pas s'impliquer dans les affaires courantes du royaume. C'est intéressant parce que l'opposition, enfin le principal parti d'opposition, ce qu'on appelait, je dirais, auparavant les chemises rouges, soutien de Thaksin Shinawatra, ils utilisent aussi l'argument de la royauté pour essayer de renforcer leur légitimité aux yeux des électeurs en utilisant un membre de la famille royale.
Invalidé, le parti pro-Shinawatra, bête noire de la junte, ne pourra donc pas se présenter aux prochaines législatives. Ne s'est-il pas tiré une balle dans le pied en proposant à la sœur du roi un poste de premier ministre au cas où il serait majoritaire ?
Je suis pas sûr parce que c'est une sorte de combat symbolique autour des icônes de la nation. C'est la monarchie quand même, c'est le roi. Et donc, dans un contexte où le successeur de l'ancien roi, qui lui était adulé, est menacé dans sa légitimité, contesté par l'opinion publique, lui opposer sa propre sœur, c'est un coup habile, à mon avis, du point de vue politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parti-là a été créé par des partisans de Thaksin, mais ceux-ci sont regroupés dans un parti principal qui est le Petai, créé en 2008. Et à vrai dire, ils n'avaient pas d'autre choix que de créer un parti d'appoint parce que il y a une loi qui a été produite par les militaires en 2017 qui interdisait à un parti dès lors qu'il gagnait les élections de gouverner tout seul. Et donc il fallait qu'il crée une alliance. Donc c'est comme une partie de poker, ils ont essayé cette carte-là de la monarchie face à un souverain qui lui souffre d'un déficit de popularité auprès de la population. Donc c'était habile. Maintenant, c'est vrai que même si ce parti Petai, qui est le principal parti, gagne les élections, comme le prévoit, je dirais, les sondages d'opinion, il ne pourra pas gouverner. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais il a joué une des rares cartes qu'il pouvait jouer, quoi.
Les législatives sont théoriquement prévues dans quelques semaines. Qu'attendre de cette échéance dans le climat politique actuel en Thaïlande ?
Je pense qu'il faudra suivre dans les semaines à venir la manière dont ces élections vont se dérouler, parce qu'elles ont été repoussées à plusieurs reprises. Et là, c'est encore un événement qui est de nature à créer des remous et éventuellement encore à les amener à être différés. Mais bon, si elles ont lieu, il faudra suivre de près, je dirais, la participation de l'électorat, quoi, et notamment l'électorat des zones rurales du Nord et du Nord-Est, qui ont toujours été les soutiens principaux aux partis successifs de Thaksin Shinawatra.
Bernard Formoso, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier et spécialiste de l'Asie du Sud-Est. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Hamel. Et à dimanche prochain, quelques mots de la météo de l'après-midi. L'Oise et l'Aisne sont venus rejoindre le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, ce qui porte à 5 le nombre de départements placés en vigilance orange au vent violent, sinon de la pluie selon une diagonale entre le Nord-Est et le Sud-Ouest. Cette édition a été préparée avec Chloé Leblon à la technique, Ludovic Auger.